nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Les prolétaires devaient être sérieux. Comme des papes. C'est bon pour la droite et le patronat de rire. Le rire est anti-prolétaire. Certains nards pensent encore comme ça. Car le rire peut être vicieux et nous faire rire à des choses fascistes, c'est-à-dire antipolitiques, bureaux, etc., etc. Donc, Jean regarde sur les portes les numéros écrits avec des chiffres de cuivre cloués à la porte. Elle n'ose pas demander aux gens qui passent où est le numéro 6533. Ils sont tellement sérieux. C'est bizarre, mais les numéros ne se suivent pas. C'est sans doute pour décourager le visiteur et demandeur. Enfin, elle trouve la fameuse porte. Il y a un papier scotché marqué « Frappez fort ». Elle frappe. Outre, entrez. Elle entre. La pièce est plus un placard qu'autre chose. Il y a une petite fenêtre, vitre sol, grillagée. Une petite table en bois usée et boiteuse. Des casiers, une armoire qui déborde, 1930, l'armoire. Une chaise pour les visiteurs. Un homme est assis au bureau. Il est contre une pile de dossiers et un verre de café. Il est petit, à moustache et cheveux gris, lunettes de métal, porte une blouse grise. Il a un tas de crayons à manivelle et des tas de crayons. Oui, des tas de crayons. Tout en remuant son café, il dit :
Comment avez-vous fait, vous, pour arriver jusque-là ?
Elle lui dit timidement, « C'est à la cogne. »
Il lui dit, « De quoi se mêle à la cogne? C'est pourquoi ?»
Elle lui dit, « C'est pour déterrer mon mari. »
Il lui dit, « C'est bien bonne celle-là. Et qu'est-ce que vous voulez en faire, votre mari? Vous ne pouvez pas le laisser tranquille. Vous l'avez embêté toute votre vie, toute sa vie maintenant. Il peut être tranquille. Vous voulez l'ennuyer. Laissez-le en paix, votre mari. Il est bien où il est, elle lui dit. C'est-à-dire que je veux le momifier. On n'est pas en Égypte ici, elle lui dit. Je sais, mais ça se fait. Alors, vous pouvez m'autoriser à le déterrer?
L'homme soupire.
J'ai déjà beaucoup de travail. Et vous venez m'en rajouter. En plus, votre mari, vous embêtez les gens. Qu'est-ce que votre mari a en foutre d'être momifié? Il ne le verra même pas, le pauvre.
Elle lui dit, mais c'est pour moi.
Elle commence à en avoir marre. Elle est fatiguée. Elle commence à pleurer. Elle lui dit, tiens, voilà qu'elle pleure encore. Je sens que ça va être difficile. Il regarde sa montre et dit, il est déjà 10h30. Je pars à 11h30. Je n'ai pas le temps. Il soupire. Se lève et va à son armoire. Ouvre. Se gratte la tête. Où vais-je trouver le formulaire? Il cherche. Ouvre les chemises. Rien du tout. Rangez les autres. Ferme. Puis, ferme la moire. Ça, le prix d'armoire. Il revient vers elle. Bien. J'ai le formulaire. Oh là là. Alors, 58 milliards 500 658 665 millions de... J'arrive pas à lire. C'est trop compliqué. Alors, nous allons remplir ce formulaire. Nom, prénom, âge du décès. Lieu où il va être va aller le cadavre, famille, etc. Nom. Elle lui donne le nom, Rivière. Elle lui donne son prénom, etc., etc. Il marque tout ça au crayon à papier parce qu'il n'a pas de machine à écrire ni rien. Une fois que la feuille est remplie, il donne un coup de tampon. Et lui dit, signez. Elle signe. Il lui dit, il faut que dans un mois, le cœur revienne au caveau. Elle lui dit, bien. Et elle sort avec le papier. Merci, monsieur. Elle sort de la pièce.
Avec l'autorisation, il commande une ambulance pour aller au cimetière. enlève le corps du caveau. Cercueil pour le mener à la clinique Riquin-Genetou. Une fois que l'ambulance est arrivée, on met le cercueil sur un brancard et on le mène au sous-sol dans la zone interdite. Il est né au sous-sol. Et au sous-sol, on met sur une table pour ouvrir le cercueil. Pendant ce temps, Jean donne les papiers au directeur de l'établissement.
Il revêt le corps dans un mois. Le médecin lui dit,
ne vous faites pas de soucis.
Si nous n'avons pas fini, nous leur donnerons un autre cadavre.
Ça ira tout aussi bien. Nous en avons plusieurs en réserve.
Il lui dit, mais moi je tiens au mien.
Il lui dit,
vous aurez un tout neuf, un bébé.
Il va falloir que vous restiez à Paris. Et donc, quand on vous appelle, vous viendrez. On vous mettra le fœtus.
Elle lui demande, comment vous allez faire?
Et on vous infiltrera en vous faisant une petite entaille minuscule. Mais avant, il faudra c'est que vous soyez préparé, que votre corps soit préparé pour qu'il accepte le fœtus. Le plus simple, c'est que vous soyez enceinte rapidement. Puis on change de fœtus.
Elle lui demande, comment?
Il lui dit, vous n'avez pas quelqu'un qui pourrait vous faire ce plaisir?
Elle lui dit, non, et puis j'ai jamais trompé mon mari. Le
directeur lui dit, le tromperai pour la bonne cause, pour le refaire vivre.
Vous fermez les yeux, ce n'est qu'un moment à passer.
C'est rapide. Vous regardez si c'est bon. Ça a bien marché, et hop, une fois, et puis voilà, vous êtes enceinte.
Elle lui dit, il faut tout de même.
Il lui dit, et oui.
Ou nous vous mettons du sperme artificiellement.
Mais c'est moins drôle. Il faudra tout de même vous mettre en transe, si vous voyez ce que je veux dire.
Elle lui dit, c'est long.
Il lui dit, normalement non. Elle lui dit,
réfléchir. Peut-être qu'artificiellement c'est mieux.
Il lui dit, sûrement mieux.
Si vous voulez, mais il faudra me dire la réponse la semaine prochaine, parce qu'il faut faire la chose de suite.
Si c'est bon,
elle lui dit, bien.
Pendant ce temps, on a ouvert le cercueil. Le cadavre n'est pas trop amoché.
On le sort, on le met sur la table d'opération. Le chirurgien-chef dit à ses aides, nous allons tout garder puisqu'il est bon. Et on me remettra dans le cercueil un vieux. Et il commence à découper et ouvrir le corps. L'on prend les organes un à un pour les mettre dans des récipients et les congeler. Le cerveau aussi. Pour les ordinateurs, c'est bon. Un bout de peau. Des organes pour les greffes. Tout va être revitalisé. Prend le sang, des cellules, puis ce qui reste, on va le mettre dans une autre pièce.
Je te laisse, madame. Tu peux fermer.
Où tout ce qui reste, qui n'est pas bon, sera mis en bouillie pour faire des pâtés pour animaux. Les organes sont mis d'urgence dans des bocaux où ils seront congelés. Ensuite, on prend l'ADN de la peau, du sang, plus des cellules sexuelles. Et on va tout revitaliser tout ça pour faire un fœtus, remettre la vie en marche. Mais en arrière, revenir au début de la vie de la personne. Pour la création du fœtus, il a fallu plusieurs jours. Il fallait redonner vie aux cellules, au sang, à la peau, avec des rayons laser. L'ADN. Après avoir donné vie aux cellules, il a fallu qu'elles puissent recomposer en organes la formation du corps. Pendant ce temps, Jeanne a été convoitée. Elle a passé une visite médicale complète avec gynécologie. Lorsqu'elle était en état d'être fécondée, elle est venue à la clinique. Elle a été allongée sur une table, les jambes écartées. On l'a excitée avec des paroles érotiques et on lui a mis le sperme. Elle est restée 2 jours pour voir si tout allait bien et retourner chez elle. Maintenant, il va falloir attendre que le fœtus aille, tienne chez elle. Elle attend aussi pour qu'on remplace son fœtus par l'autre. Jeanne est heureuse. Elle se dit qu'elle va avoir son mari à elle. Elle passe une grande partie de sa journée allongée, de peur de perdre ce qu'elle a en elle. Le reste du temps, elle prépare la venue du bébé, prépare la chambre d'enfant, achète des vêtements. La bonne, petite jeune blonde, un jour, lui demande : vous préparez cette chambre, madame ? Jeanne est surprise de cette question. Elle n'a pas pensé à ce qu'elle devait dire aux gens. Elle lui dit : c'est un enfant. La bonne fait « Un enfant, madame, de monsieur ?» Elle lui dit « Oui. » Très vite, la nouvelle se propage dans le quartier. Madame attend un enfant de monsieur qui est mort depuis 2 mois. Tout le monde dit que Jeanne est enceinte de 2 mois. Tout le monde la plaint, accouchée d'un mari qui est mort. Comme c'est triste. Ses amis la prennent, on lui téléphone, viens la voir. Vrai, ma chère, que vous allez voir un enfant de Frédéric. Elle leur dit, oui, Frédéric va renaître en moi. Tout le monde trouve cette façon de voir très belle. Touchante. Mais comment allez-vous faire toute seule? Je ne suis pas seule. J'ai mes domestiques et tout. Ce qu'il me faut, tout le monde la trouve héroïque. Jeanne se dit qu'elle a déjà subi le plus dur, l'accouchement artificiel, être obligée de jouir comme ça devant tous ces gens et en plus recevoir comme ça devant tout le monde. Les jours passent, elle voit une fois par semaine faire une visite à la clinique. Un jour, le directeur de la clinique lui dit par les chances, le fœtus est suffisamment formé chez vous et le nôtre aussi. Nous avons réussi, c'est à donner l'ordre aux cellules de faire l'assemblage pour créer le petit corps. L'ADN et le sperme aussi ont bien fait son travail. Maintenant, c'est à la nature de faire son travail. Elle va se faire en vous. Venez demain matin. Vous resterez au moins une semaine chez nous. Bien.
Elle retourne chez elle pour préparer ses valises et dire aux domestiques qu'elle part à la clinique le lendemain. La petite bonne lui dit « Mais madame, il est encore tôt.
Je vais suivre des examens pour pouvoir le garder. Je veux absolument garder cet enfant. »
Le lendemain matin, elle est partie à la clinique avec sa valise.
On lui a donné une chambre au sous-sol, lieu interdit au public.
La chambre est belle, vaste, claire. Puis, on lui fait une visite, radio, urine, sang, etc. Puis, on la prépare pour l'opération, diète, etc. Le lendemain, on vient la chercher pour l'opération. Elle est menée à la salle d'opération. Le fœtus est dans un récipient en attendant. On endort Jean. Puis, on lui fait une petite ouverture au laser, juste ce qu'il faut, avec une caméra.
Je te laisse, madame. Tu peux fermer.
Miniature, qui est au bout d'une pince. Le chirurgien voit sur l'écran et télécommande pour prendre le minuscule fœtus. Il le retire et dépose l'autre à la place. Le fœtus retiré, sera mis chez une autre femme et sera vendu. Une fois que le fœtus a été déposé et scellé à la mère, on ferme au laser l'ouverture.
Une fois que le petit fœtus a été déposé, on ramène la mère dans sa chambre. Elle est encore endormie. On lui met de goutte à goutte.
Et on la réveille parce que c'est pas bon pour le fœtus qu'elle reste trop longtemps endormie.
Jeanne se réveille avec une douleur terrible au ventre et aux reins.
Elle est près d'elle et lui dit « Ça s'est très bien passé. »
Elle lui dit « J'ai mal. »
Il lui dit « C'est un peu normal. » Vous avez eu comme un avortement. Il faut que les choses se remettent en place. Le corps doit accepter le nouveau fœtus, en plus de l'ADN de votre mari. Pour qu'il accepte, j'avons mis le vôtre.
comme ça c'est aussi vraiment votre enfant. » Elle lui dit inquiète. « Ce ne sera pas mon mari alors ?» Il lui dit. « Nous l'avons dit, ce n'est pas vraiment votre mari. Il aura son propre caractère, son physique sûrement, mais c'est tout. On ne peut pas ressusciter votre mari. » Non, son corps a donné vie. Il aura aussi du vôtre. Avec le corps de votre mari, vous avez donné la vie à un être, disons, en grande partie, qui sera comme votre mari, et le reste de vous. On ne peut pas faire autrement. » Elle lui dit, « C'est mon mari tout de même qui saura. » Il lui dit, « Si vous voulez, reposez-vous. »
Il la quitte. Elle passe 2 jours où elle a très très mal et elle reste très souvent inconsciente. Elle fait des rêves étranges où elle rêve qu'elle accouche de son mari, un bébé qui grandit et l'enveloppe tout entière. À partir du 3e jour, elle va mieux. Au bout du 6e jour, on lui enlève le goutte à goutte. Elle n'en a plus besoin et elle n'a plus mal. Une infirmière vient la masser tous les matins et on la fait marcher un peu. Puis, elle prend de plus en plus de force. Elle peut sortir de la clinique. Avant de partir, le directeur lui dit « Repos le plus complet. » Elle lui dit « Oui, directeur. » Elle est ramenée chez elle en ambulance. On la couche dans son lit. Les domestiques sont aux petits soins avec elle. Elle pense qu'elle a failli perdre son enfant. La bonne dit à la boulangerie, « C'est un enfant précieux, celui de son mari qui est mort. » Tout le monde la plaint. Les jours passent. Elle reste au lit le matin tard et la journée, elle va juste faire un petit tour de marche, puis rentre. Elle reste assise dans un fauteuil à lire. Elle est heureuse et se dit qu'elle a un mari en elle. Elle ne se dit plus veuve. Des amis viennent la voir, prendre de ses nouvelles. Elle apporte de petits cadeaux. Elle parle du bébé en prenant le thé au salon. Thank you.
Les jours passent. Elle va une fois par semaine à la clinique pour voir si le fœtus se développe bien. On lui fait des radios, prise de sang, tout semble bien aller. Les mois passent. Elle est de plus en plus persuadée qu'elle va accoucher de son mari. Elle est très heureuse. Elle s'imagine une vie avec lui comme avant. Elle ne pense pas du tout qu'avant qu'il puisse vivre comme avant, il va falloir des années et des années, peut-être même plus de 20 ans, pour que son mari puisse avoir puisse pouvoir vivre comme avant, parce qu'il a tout à apprendre, même à parler, à marcher. Les jours passent. Et un après-midi, elle sent les douleurs. Vite, elle téléphone à la clinique. Le directeur lui dit de prendre une ambulance de suite. Ils veulent en amener une. Elle prévient les domestiques. Les valises sont prêtes. L'ambulance arrive pour l'amener à la clinique. Elle accouche une demi-heure plus tard.
C'est pas fini. J'ai tant souffert moi-même. Surtout avec la dernière. Vous verrez ma petite, le premier, ce n'est rien. Plus on en a, plus c'est pire.
Madame, là.
Surtout pas, c'est pas fini. J'ai tant souffert moi-même. Surtout avec la dernière. Vous verrez ma petite, le premier, ce n'est rien. Plus on en a, plus c'est pire.
C'est un beau garçon. Dès qu'il est sorti, il était examiné sur toutes les coutures. Après l'avoir examiné, il semble normal. L'accouchement a été très difficile et douloureux. C'était son premier et à un âge déjà assez critique. Sa souffrance l'a empêché de penser à la naissance de son enfant et à se dire que c'est son mari qui vient de naître et qui est sorti de son ventre. Une fois que l'enfant est sorti, elle a vu qu'une chose rouge qui criait. Elle était trop fatiguée, trop épuisée. Mais dès qu'elle a pris conscience, elle demande « Mon mari, où est mon mari ?» Une infirmière la regarde. Le médecin lui dit « Il est parti pour examen. Il va revenir. » Une infirmière dit au médecin « Le mari de madame est malade ?» Le médecin lui dit « Non, il vient de naître. » La fille le regarde effrayée, effarée, puis lui dit « Vous êtes un rigolo, vous ?» Il lui dit « Non, pas du tout. Vous oubliez, c'est que vous êtes dans la zone spéciale de la clinique et que tout est possible. » L'infirmière sent qu'elle va s'évanouir. Elle demande « Il a quel âge, son mari ?»«
Je crois, dans les 30 ans. »
La mère dit « Où est mon mari ?» L'infirmière lui dit « Il est dans une couveuse pour examen. »
La mère s'est endormie. Elle se réveille, elle a mal de partout, envie de vomir. Le ventre la brûle. Mère blonde, dans les 25 ans, lui demande « Vous voulez voir votre bébé ?» Jeanne fait oui de la tête. On lui montre, emmitouflé, dans une couverture, l'enfant Marie. Elle est tout émue, tend les bras pour qu'on le lui montre et le lui mette. Elle reçoit cet enfant bizarre qui est en même temps son mari. Ça lui fait tout drôle et surprise car elle croyait qu'elle allait ressentir quelque chose d'autre que d'avoir un enfant dans ses bras. Puis elle se dit que c'est normal, qu'il faut attendre, l'attendre qu'il grandisse. Il va couver. Elle va couver son enfant comme une poule. Couvre un œuf plus tard, plus tard.
Yeah.
Les jours passent. Elle doit montrer son enfant une fois par mois à la clinique. L'enfant grandit bien. Jeanne a compris qu'il fallait l'élever comme un bébé normal. D'ailleurs, elle n'éprouve que désir pour lui. Elle est très heureuse d'être une mère et de jouer à la mer. Les jours passent et lui apprend à parler, à marcher, à faire ses besoins. L'enfant l'appelle maintenant maman. Ça la gêne un peu, elle l'appelle Frédéric. Elle a déclaré l'enfant comme le fils de son mari décédé, d'elle. Pour éviter les embrouilles et les questions à n'en plus finir. Parle souvent de son père qui lui est en lui disant « Tu te rappelles, tu aimais beaucoup prendre le train. Au début de notre mariage, tu aimais beaucoup les carottes. » Les domestiques qui l'entendent se disent qu'elle est un peu fêlée. Elle le berce souvent, l'embrasse beaucoup, en se disant que c'est la peau de son mari. L'enfant grandit, il est de plus en plus attaché à sa mère parce qu'elle est toujours près de lui. Il est devenu un petit garçon, mince, délicat, très poli, joli, les cheveux blonds qui ondulent, les yeux bleus profonds. Il y a beaucoup d'élégance dans sa façon de se mouvoir. Jeanne l'habille comme un petit prince, costume marine, chemise blanche. Elle le surveille constamment et ne sort qu'avec elle. Il ne voit jamais des enfants. Elle l'éduque elle-même. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.